you. Are you racing or watching?
La dispute littérature. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, je l'ai déjà annoncé, Raphaël Léris, Jean-Christophe Briançon et Grégoire Leménager. À notre sommaire, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois aux éditions de l'Olivier, Mon année de repos et de détente d'Otessa Moshfegh chez Fayard, La mer à l'envers de Marie Darrieussecq chez POL, et puis il y aura un coup de cœur de Jean-Christophe Briançon pour L'éternel printemps de Marc Botrel chez Gallimard. Nous ouvrons cette dispute avec Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Chaque livre de Jean-Paul Dubois est la promesse de retrouver un héros qui s'appellera Paul, dont la femme tant aimée aura disparu. Mais les variations étant l'essence même de l'art, on ne sait jamais pour autant où l'on va.
Il neige depuis une semaine. Près de la fenêtre, je regarde la nuit et j'écoute le froid. Ici, il fait du bruit. Un bruit particulier, déplaisant, donnant à croire que le bâtiment, pris dans un étau de glace, émet une plainte angoissante, comme s'il souffrait et craquait sous l'effet de la rétraction. À cette heure, la prison est endormie. Au bout d'un certain temps, quand on s'est accoutumé à son métabolisme, on peut l'entendre respirer dans le noir, comme un gros animal, tousser parfois et même déglutir. La prison nous avale, nous digère et, recroquevillé dans son ventre, tapis dans les plis numérotés de ses boyaux, entre deux spasmes gastriques, nous dormons et vivons comme nous le pouvons.
C'est le tout début de ce livre de Jean-Paul Dubois que l'on vient d'entendre, lu par Alexandre Fougeron. Premier tour de table, pour résumer votre impression avant de la développer, vous le savez, dans un deuxième temps, Grégoire Leménager.
C'est un roman parfait.
Qui va à l'essentiel. Raphaël Léris.
Mais que voilà un beau traité sur les manières de rater sa vie. Après, si on doit chipoter, je vous dirais qu'il y a peut-être beaucoup trop de un tout petit peu trop de choses dans ce roman parfait constitué de tout l'univers de Jean-Paul Dubois, mais c'est vraiment pour jouer à la dispute.
Ouais, c'était moins synthétique en même temps. Jean-Christophe Briançon.
Pas très envie de me disputer non plus, c'est un roman d'une délicatesse infinie.
Bon, ben je vais vous garder tout ça, sachez-le, vous reviendrez dans la dispute. Non, je blague, parce que j'aime beaucoup ne pas être d'accord avec les uns et les autres. Mais en l'occurrence, Jean-Paul Dubois, ça m'aurait quand même peiné, je dois le dire. On commence par la perfection.
Je d'accord, parle de vous, c'est la perfection, ouais, ça me va très bien.
En quoi c'est un roman parfait? Alors, développons. Ce principe-là.
Alors, c'est un roman parfait pour plusieurs raisons. C'est un roman parfait par rapport au précédent roman de Jean-Paul Dubois, qui s'appelait La Succession, que j'avais beaucoup aimé, parce qu'on y retrouvait à peu près tout ce que vous venez de dénoncer, qu'on trouve dans tous les romans de Dubois. Tout ça servi avec un style extrêmement délicat, avec un humour permanent, une tristesse permanente, le mélange des deux qui donne quelque chose d'assez singulier et d'assez irrésistible. Mais La Succession, il y a quelque chose qui flottait un peu narrativement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était un peu éparpillé dans le récit. Ces livres qu'il écrit en un mois, on sentait que celui-là, il n'avait pas eu le temps de complètement serrer les boulons.
C'est sa méthode d'écriture, hein, rappelez-vous. Voilà. Moi, je trouve... Certains mois de mars, Jean-Paul Dubois s'enferme et écrit. Et
il écrit comme un forcené. Ouais. Il souffre beaucoup pendant ce mois-là et il accouche en général de romans très très beaux. Et La Succession, il y a quelque chose d'imparfait qui moi me plaisait beaucoup. Beaucoup. Je trouvais que ça donnait énormément de charme au livre. Celui-là, il est beaucoup plus parfait. Celui-là, il est narrativement, c'est très bien structuré, très bien construit, c'est impeccable. On est en prison avec ce type, on se demande pourquoi il est en prison, et puis ça va alterner. Les épisodes de prison vont alterner avec des réminiscences du passé qui petit à petit vont reconstituer sa vie et qui petit à petit vont nous faire comprendre pourquoi il est en prison.
Quel beau résumé.
Et ben oui.
Non, c'est bien.
Et tout ça, franchement, Du coup, il y a pas une page où on s'ennuie parce que on attend de comprendre comment ce type, qui a l'air vraiment d'être un brave type, enfin il est enfermé avec un biker qu'on soupçonne malgré toutes ses protestations d'innocence d'avoir effectivement réglé son compte à des gens. Là, le gars, le narrateur, non, ça a l'air d'être vraiment un brave type. Donc on se demande pourquoi il est là. Et voilà. Et au passage, donc il y a toute sa vie qui défile. Et c'est, bon, je vais laisser mes camarades en parler aussi. Mais c'est un roman parfait aussi parce que sur cette narration, encore une fois, très balisée, qui fait qu'on n'est jamais perdu et qui a le minimum de suspense pour avoir une lecture agréable d'un roman, il y a le style de Dubois qui vient se greffer là-dessus et qui pour le coup produit des effets de décalage, des effets de zoom sur des détails, des effets de mise à distance, des effets d'ironie en permanence, et qui font que on voit que cet écrivain il a quelque chose qui fait défaut à beaucoup d'écrivains de la rentrée, qui est ce qu'on appelle bêtement une vision du monde singulière et qu'il assume complètement et qui n'appartient qu'à lui. Et ça c'est très chouette. Et à l'arrivée, ça fait un livre qui est lisible par des gens qui lisent un livre par jour parce qu'il y a cette singularité du style et du regard, et un livre qui est lisible par des gens qui lisent un livre par an parce qu'il y a cette histoire avec des personnages très incarnés. Donc voilà, donc ça fait un prix Goncourt idéal.
Je vote pour.
Puisque ça ne peut que
lui revenir. Voilà. Ça ne peut que lui revenir, soyons clairs. Alors, y a trop de choses, Raphaël Léris, dans ce très bon roman que vous avez beaucoup aimé aussi.
Voilà, très bon roman que j'ai beaucoup aimé. Mais donc, on y trouve toutes les obsessions de Dubois qui ont parfois quelque chose à voir avec une forme de folklore, sauf qu'on est tellement heureux de les retrouver. C'est-à-dire qu'il est question de tondeuses, de voitures très précises avec leur date, leur modèle, etc. Il y a la question de la foi qu'il travaille beaucoup et qu'on retrouve à travers la figure du père de Paul, qui est un pasteur protestant à la fois chancelante et qui terminera turfiste. C'est un personnage magnifique, vraiment un immense personnage. Et puis il y a aussi, entre mille autres choses, une épouse algonquine, à moitié irlandaise, parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'en plus, et donc un peu de chamanisme au lieu de ça. Moi je trouve que ça fait beaucoup parce qu'il a perdu son épouse dans un accident, dont je ne dirai rien, mais on sait dès le départ qu'il est veuf et que sa femme vient le visiter en pensée dans sa est à ses côtés, voilà, dans la prison, à côté de son chien, parce qu'il y a aussi des chiens chez Jean-Paul Dubois. Et donc, voilà, moi je trouve que peut-être à un moment donné, on peut enlever une partie des drames qui se sont abattus sur l'existence de Paul, et que peut-être l'épouse, en ce qui me concerne, serait l'élément d'un tout petit peu trop. Néanmoins,
si vous enlevez l'épouse disparue dans un roman de Jean-Paul Dubois, là vraiment, monde s'écroule.
Le chamanisme, ça fait beaucoup, quoi. Après, je sais.
Il y a une page et demie sur le chamanisme. C'est pas encombrant non plus.
Non, ça n'est pas encombrant. En même temps, elle vient régulièrement le visiter, et c'est évident que ça intéresse beaucoup Jean-Paul Dubois. Mais c'est vraiment pour faire semblant de me disputer que je dis qu'il y en a un petit peu de trop, parce que par ailleurs, cette addition d'éléments fait que Paul repousse en permanence le moment de dire ce qu'il fait dans cette prison, et que ça donne une force au récit et une envie de tourner les pages qui est absolument irrésistible. Donc vraiment, c'était pour faire semblant.
C'est bien, vous avez bien fait semblant, Raphaël Léris. Jean-Christophe Briançon, solide de Jean-Paul Dubois.
Si je devais faire semblant aussi, moi je reviendrais sur ce que disait Grégoire, sur la perfection de la perfection de la construction, et le fait que ce roman soit effectivement, c'est pas contre lui que je dis ça, mais d'une certaine manière calibré pour être un prix Goncourt, enfin calibré pas forcément dans la tête de l'auteur, ni même dans celle de son éditeur. Je suis même certain que non, mais malgré lui, ce roman est très calibré pour ce type de prix.
On va pas lui porter la poisse.
Et sa construction effectivement frise une perfection qui pourrait de temps en temps le déshumaniser jusqu'à en faire un objet prêt à lire très efficace. C'est là aussi, si je devais me disputer,
vous faites semblant, Jean-Christophe,
parce que voilà, je fais semblant parce que j'ai pris un plaisir immense à le lire, et Grégoire là aussi parlait d'une vision du monde, et ce qui m'a particulièrement touché, c'est que cette vision du monde ne se veut pas politique ou intellectuelle, c'est une vision uniquement sensible, et c'est ce que j'aime personnellement dans sa littérature, dans la littérature et dans la sienne en particulier, c'est qu'avant tout il est question de délicatesse et d'humanité au sens inverse d'un roman, d'un mauvais roman de gare. Là, c'est une humanité d'auteur réellement, où le verbe est au service de la description d'un homme, d'une vie. Une vie qui, a priori, n'est pas très intéressante. C'est là aussi que ce livre est fascinant, c'est qu'il ne part de rien, finalement. Parce que, sans en dire plus que ça, malgré tout, on se rend compte au fil du récit que la vie de cet homme n'était pas non plus forcément destinée à faire l'objet d'un livre. C'est somme toute, pas grand-chose d'extraordinaire qui lui soit arrivé. Des choses malheureuses parfois, mais somme toute assez classiques. Et de ça, de ce classique, par sa sensibilité et par le verbe, l'auteur arrive à faire littérature. C'est assez incroyable.
Alors, il y a d'une part, effectivement, ce côté vie simple, mais chez Jean-Paul Dubois, c'est avoir une femme comme celle-là, avoir un chien comme celui-là, ça devient tout de suite quelque chose d'éminemment romanesque, éminemment émouvant. Moi, c'est ça qui me bouleverse toujours quand je lis Jean-Paul Dubois. Celui-là est quand même nettement plus noir encore que les précédents. Je trouve que là, il va quand même très profondément dans la noirceur. Mais on parlera tout à l'heure, sans doute avec Marie Dariussec, de la question de la façon dont les écrivains nourrissent leur écriture. Et il y a quand même beaucoup, au-delà de Marie Dariussec, beaucoup de livres documenté pour faire des romans chez Jean-Paul Dubois, quand effectivement il y a le mode d'emploi d'une tondeuse ou le modèle précis de la voiture, c'est jamais gratuit chez lui. Ça participe pleinement de la construction générale du récit. Ça dit des choses sur chacun des personnages. Là, on a par exemple les quelques mois où en France le cinéma porno était, on va dire, avant l'interdiction du X, enfin avant l'apparition pardon du X, donc était diffusé dans des cinémas tout public, et ça a tout à fait un sens. Le taux de chlore dans une piscine, ça a tout à fait un sens. Et dans ce livre-là, est-ce que c'est ça que j'aime profondément aussi chez Jean-Paul Dubois, c'est cette capacité à faire roman de tout. Et là, alors ça en fait beaucoup peut-être, mais moi je suis époustouflé, ému, très ému quand même. Toujours, moi, la succession quand même, les dernières pages m'avaient absolument vu me liquéfier, tellement j'étais ému. Là, c'est l'émotion, elle est très présente et tout au long du livre, et sans doute ce que ces visites de sa femme et de son chien dans sa cellule de prison, non, je ne mettrai pas d'adjectif, tiens. Ni chamanique, ni fantasmé, ni rêvé, ni hallucinatoire. Elle participe quand même beaucoup de cette émotion que moi j'ai ressentie tout du long. Qui veut en dire plus ?
Non mais,
Grégoire Le Ménager.
Je vais rectifier le tir quand même. C'est très émouvant. Il y a une vraie noirceur, parce que Dubois, c'est un sage. Il a compris qu'il ne fallait se faire d'illusions sur rien. Il a compris ça. Ce qui serait temps que tout le monde comprenne. Pour autant, il a vraiment l'humanisme chevillé au corps et au cœur. Donc il aime ses personnages, c'est vrai. Donc il y a de la noirceur. Dès le début, on nous dit que les hommes sont des ours qui ont mal tourné, quand même, ce qui est quelque chose que j'invite tous nos auditeurs à méditer longuement. Mais c'est drôle.
Oui, c'est toujours très drôle aussi.
Il y a une drôlerie sur laquelle il faut insister. C'est-à-dire que,
vous avez raison.
Oui, il y a une dame qui tient un cinéma d'arrêt d'essai qui va projeter Gorge Profonde. Cette dame, il se trouve que c'est la mère du narrateur et donc que cette dame, elle est mariée avec un pasteur d'origine danoise. Donc, il y a le couple que forment les parents est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et à travers l'histoire de ce couple, avec ce pasteur qui va avoir une crise de foi et qui va se mettre à jouer aux courses et à jouer au casino, il y a une espèce de à travers ces personnages, il arrive quand même à raconter, comme il l'avait fait dans Une vie française aussi, qui est quand même son chef-d'œuvre, je pense, et qui restera son chef-d'œuvre. Il arrive à raconter un demi-siècle d'histoire de l'Occident et des mentalités occidentales et des modes de consommation et des choses auxquelles on croit et tout ça avec vachement d'humour. Et son expérience de grand reporter aux États-Unis pour qui a quand même été son métier au Nouvel Obs pendant 15 ou 20 ans et dont il a tiré un livre qui est un chef-d'œuvre qui s'appelle L'Amérique maquette, dont on avait parlé quand il était sorti. Ça lui permet de nourrir ça. Et comme il nous parle de ce que c'est que la vie américaine, qui est quand même la vie qui nous attend, nous les Européens. Il nous parle de l'abominable métier qui consiste dans les compagnies d'assurance à évaluer le prix des morts. Il y a quelque chose de très documenté là-dessus, parce qu'il a écrit des articles là-dessus. Et il a un regard sur tout ça. Et un regard qui est à la fois très critique et qui en même temps est toujours empreint d'une grande empathie pour les malheureux individus qui sont ni bons ni meilleurs que les autres et qui se retrouvent pris dans des systèmes qui nous empêchent de vivre, quoi.
Raphaël Léris.
C'est un livre voilà, qui a des personnages magnifiques et qui nous dit aussi comment on vit avec les morts qui nous ont accompagnés, pas seulement son épouse et son chien, mais aussi ses parents, etc. Et je voudrais dire juste un tout petit mot, parce qu'à la fin, il remercie Jean-Paul Dubois remercie les gens qui ont travaillé à ses côtés aux éditions de l'Olivier, les vivants, les morts, parmi lesquels Virginie Petracco, qui a été son attachée de presse aux éditions de l'Olivier depuis 2000, qui est morte récemment. Et je suis très émue qu'il lui rende ante mortem cet hommage, et que c'est évident qu'elle l'accompagne aussi dans l'écriture de ces textes-là.
Jean-Christophe, un dernier mot sur...
Ouais, je voulais revenir sur ces détails dont on a parlé, qui sont chers à Dubois, qui je pense qu'on l'a fait comprendre, mais je voulais le repréciser que ce sont jamais des détails anodins, et qui ne sont pas des détails tels que, par exemple, ça m'a fait penser à certains instants à la précision que peut avoir Jean-Philippe Toussaint dans certains de ses ouvrages sur la technique de certaines choses qui peuvent peupler le monde de ses livres. Et là, ce sont chez Toussaint des détails qui sont un petit peu froids. Dans les livres tels que ceux de Toussaint, ce sont des détails qui peuvent être un peu froids, par exemple. Chez Dubois, là, non, le détail est là toujours pour une raison, c'est parce que derrière ce détail, il y a toujours un homme qui l'a fait, ce détail. Et quand il nous parle du moteur de cette voiture que le personnage achète, on parle pas technique, on parle de l'homme qui l'a fait, ce moteur, et de la personne qui conduira cette voiture. C'est toujours, toujours dans l'humanité que le détail se cache.
Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, de Jean-Paul Dubois, publié aux éditions de l'Olivier. J'en profite pour rappeler que ce roman, comme quatre autres, fait partie de la sélection de la 7e édition du prix du roman des étudiants. Vous savez que pour ce prix, les rédactions de France Culture et de Télérama présélectionnent 5 romans issus de la rentrée littéraire 2019, en l'occurrence donc Jean-Paul Dubois. Il y a aussi La mère à l'envers de Marie Dariussecq, dont nous allons parler tout à l'heure. Il y a Dans la maison d'Emma Becker, Par les routes de Sylvain Prudhomme et Éden de Monica Sabolo, tous livres dont nous avons parlé ou dont nous parlerons dans cette dispute. Et pour être juré de ce prix du roman Les étudiants, il faut être scolarisé dans un établissement d'enseignement supérieur. Il suffit de s'inscrire avant le 7 octobre, il n'y a plus beaucoup de temps, sur la page internet du prix du roman des étudiants France Culture Télérama, d'envoyer une critique écrite ou vidéo du dernier roman que vous avez lu, et comme ça vous pourrez devenir juré. Voilà, cette annonce est faite et je la referai. À suivre donc dans la dispute, on parlera donc de Marie Dariussecq, puis aussi d'Otessa Moshfegh et de Marc Potrel.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec Mon année de repos et de détente d'Otessa Moshfegh, publiée chez Fayard dans une traduction de Clément Beau. De quoi s'agit-il ? Un extrait du livre, lu par Lucille Comeau, va vous expliquer la situation de la narratrice.
J'avais commencé à hiberner tant bien que mal à la mi-juin de l'an 2000. J'avais 26 ans. À travers une lamelle cassée de mes stores, je regardais l'été mourir et l'automne devenir froid et gris. Mes muscles se desséchaient. Les draps de mon lit jaunissaient alors que je m'endormais généralement devant la télévision sur mon canapé Pottery Barn à rayures bleues et blanches, affaissées et couvertes de taches de café ou de sueur. Je ne faisais pas grand-chose pendant mes heures de veille, mis à part regarder des films. Je ne pouvais pas supporter la télévision. Surtout au début, la télé éveillait trop de choses en moi. Alors je m'excitais sur la télécommande, je zappais, je ricanais de tout, je m'agitais. C'en était trop. Les seules informations que je lisais encore étaient les titres racoleurs des quotidiens locaux, à la Bodega. J'y jetais un bref coup d'œil quand je payais mes cafés. Bush affrontait Gore dans la course à la présidence. Une personnalité importante mourait, un enfant était kidnappé, un sénateur volait de l'argent, un célèbre sportif trompait sa femme enceinte. Il se passait bien des choses à New York, il s'en passe toujours. Mais rien ne m'affectait. C'était toute la beauté du sommeil. La réalité se détachait et se manifestait dans mon cerveau aussi fortuitement qu'un film ou un rêve. Il m'était facile d'être indifférente aux choses qui ne me concernaient pas. Les employés du métro se mettaient en grève. Un cyclone arrivait, s'en allait, aucune importance. Des extraterrestres auraient pu nous envahir, des sauterelles déferler, je l'aurais remarqué, mais je ne m'en serais pas inquiétée. «
Premier tour de table, rapide, premier avis sur ce roman d'Otessa Moshweg. Raphaël Leris.
Si rien n'est aussi déprimant qu'un feel-good book, il y a peu de choses récemment qui m'aient mis d'aussi bonne humeur que ce feel-très-bad book d'Otessa Moshweg, qui est un roman sur le retrait du monde, mais aussi un épatant précis de pharmacopée, un compte à rebours, et aussi un bien bel hommage à Whoopi Goldberg.
C'est vrai. Jean-Christophe Briançon.
Moi, c'est un roman que j'ai adoré détester.
Ah, vous développerez. Grégoire le Ménager.
Ouais, je suis tenté de dire que c'est un livre que j'ai détesté, adoré, mais
ce sera un peu fort quand même.
Non, c'est un livre, c'est très bien, parce que tout est affreux, drôle et méchant là-dedans. Donc.
Pas mal dit aussi. Allez, on va donner la parole à la plus enthousiaste. Enfin, je n'ai pas encore exprimé mon avis, je le ferai dans un instant. Raphaël Leris.
Alors, ça pourrait être un livre terriblement déprimant, l'histoire d'une pauvre petite fille riche, blonde, de 26 ans, diplômée de Columbia.
Qui ressemble à un mannequin aussi, tant que ça.
Qui ressemble à un mannequin. Mais bon, qui a quand même perdu à 6 semaines d'intervalle son père d'un affreux cancer et sa mère d'un qui s'est suicidée. Et donc, qui décide d'échapper au monde, à elle-même, à son cerveau qui va très vite. Et qui est très, très négatif et hilarant à force d'être négatif. Donc ça pourrait être vraiment terriblement déprimant. Elle est maltraitée par les hommes, elle est jalousée par les femmes. Enfin, vraiment, sa vie est une solitude sans faille. Mais il y a cette voix acerbe dont la lecture de Lucille Comeau nous a donné un bel exemple. Il y a ce regard misanthrope sur le monde, très, 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 très drôle. Donc cette mise en retrait à l'égard du monde, mais aussi à l'égard du pathos. C'est-à-dire, elle en exprime un refus absolu. Et puis, donc, il est beaucoup question de pharmacopée dans ce livre. Alors, l'un des personnages les plus formidables, c'est donc la psy incompétente, le docteur Tuttle, qu'elle a pris dans l'annuaire par hasard.
Génial,
et coup de peau, elle est tombée sur quelqu'un qui veut bien lui refaire des ordonnances de plus en plus folles. Et donc, Otessa Moshweg invente des médicaments, en met quelques-uns qui existent, les Prozac, Xanax, mais donc on invente d'autres qui devraient la plonger dans le sommeil. Sa narratrice invente que pas du tout ce qui pousse le docteur Tuttle, qui ne se souvient jamais de ce qui arrivait à sa patiente, la mort de sa mère.
Ah, pour votre mère est morte. Alors elle lui dit à chaque fois des choses différentes.
Avec quand même cette phrase géniale qui est « Ce sont les gens comme votre mère qui ont fait le plus de mal à la réputation des antidépresseurs, puisqu'elles se sont suicidées en avalant avec beaucoup d'alcool. » voilà, d'un livre qui pourrait être terriblement déprimant, elle fait donc une espèce de comédie très grinçante. Par ailleurs, ce que je trouve formidable, c'est la temporalité du texte, c'est-à-dire que bon, on sait qu'on est en 2000 et qu'on finira en 2001. Elle n'en joue pas énormément, mais dans ce roman, il ne se passe rien. On attend de voir arriver le 11 septembre, et la manière dont, sans rien dire, elle s'en sert, je trouve, propulse le roman.
Voilà. Jean-Christophe Briançon, vous avez adoré détester alors.
Dites-moi ou détester adorer comme Grégoire, je sais pas
savoir,
exactement où je me place. En tout cas, je sais que ce qui m'a dérangé, j'ai souffert
à la lecture.
À certains instants, oui.
Bon.
Oui, parce que je trouve que on y reviendra, mais oui, j'ai souffert à certains instants. Et ce que j'ai détesté, c'est avant tout d'être la cible idéale de ce roman, puisque je correspond exactement à ce pourquoi il a été pas ce pourquoi il a été écrit, parce que modestement,
vous identifiez à Trevor, j'ai eu un peu peur.
Mais en tout cas, voilà, c'est un roman qui se revendique existentialiste, que Bret Easton Ellis dit partout avoir adoré.
Il sera demain matin.
Qui sera d'ailleurs
de France Culture avec Guillaume
Matin. Donc il s'inscrit dans toute une culture, dans toute une littérature américaine des années 90 à laquelle je suis très sensible et beaucoup de gens a priori sont sensibles. Donc voilà, ça c'est un peu téléphoné comme geste et ça c'est comme tous ces gestes-là peut-être ça tient un petit peu trop à son idée, cette idée qui est superbe de cette fille qui essaye de s'endormir à tout prix. Au-delà de cette idée-là, je pense et malgré tout l'humour et tout le talent qu'il peut y avoir dans la dépiction de la vie de cette fille, il y a malgré tout certaines lourdeurs dans la construction, une construction qui est très visible, une construction surtout des personnages qui dont certains d'entre eux sont brillamment dépeints, d'autres un petit peu moins. Il y a quand même un instant du livre un peu mou, un peu laborieux, je trouve, dans le centre du projet qui bon, bout d'un moment, on se dit, ok, on sait à peu près où elle va, d'où elle vient. Entre les deux, ça va quand même être long. À certains moments, on peut se le dire, parce que malgré tout, elle n'est qu'enfermée dans une pièce à se bourrer de médicaments. Donc, en dehors des instants où elle parvient à nous décrire certaines personnalités très intéressantes et foisonnantes, comme peut l'être sa psy, je trouve qu'il y a des ventres mous. Malgré tout, c'est comme je le disais, un livre que j'ai adoré détester parce qu'on s'y prend, on trouve ça beau, et même si l'existentialisme dont il se revendique n'est peut-être pas aussi puissant que son auteur ou son éditeur, je ne sais pas, le voudrait, puisqu'ils le mettent en quatrième de couverture, malgré tout, il y a quand même une réflexion qui est assez intéressante sur ce qui peut se passer aujourd'hui dans la tête d'une fille de 30 ans à New York.
Ouais, je viens de découvrir grâce à vous la quatrième de couverture, vous savez, mon peu de goût pour cette page. Alors, Grégoire Leménager, à nouveau à vous.
Écoutez, vu l'état du monde et la manière dont cette fille écrit, moi, je suis arrivé à la fin de ce livre, je me suis dit que je ferais bien la même chose qu'elle, finalement. Et puis, comme il y a cette émission, je me suis retenu.
C'est beau.
Mais...
Vous commencez demain? Mais on ne voit pas pendant un an ou trois mois?
Je commence demain. Non, mais tout ce que vous avez dit est juste. Moi, ce que je trouve qu'il y a... Il y a effectivement un petit problème de monotonie au bout d'un moment. Il y a quelque chose d'un peu soporifique même. Et je trouve qu'il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé qui vient redynamiser le livre. Je trouve quand on attaque le deuxième tiers du livre, qui est qu'elle commence à se rendre compte que pendant qu'elle dort, elle fait des trucs. Mais elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Et donc elle se réveille, elle se rend compte que dans son appartement, il y a des parts de pizza. Alors qu'elle n'avait pas acheté de pizza, elle se rend compte qu'elle utilisait son téléphone pour téléphoner, qu'elle allait sur Internet faire des trucs bizarres, elle qui n'avait aucune...
Du chat porno, disons-le, mais ça arrive très tôt.
Notamment du chat porno.
C'est pas très exploité.
J'adore ce qu'elle commande au téléshopping.
C'est pas très exploité, mais bon, ça vient redynamiser un peu le livre, on se demande ce qu'elle... Bon, elle en fait pas grand-chose, mais ça vient quand même créer une sorte de tension, et ça donne d'un seul coup de la profondeur à la psychologie de cette fille. Ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il n'y a aucune psychologie, vous dites roman existentiel et tout, oui, ça renoue avec la grande veine du roman existentialiste qui nous met face à l'absurdité de l'existence, qui fait aucune psychologie. La psychologie, ça l'intéresse pas. La psychanalyste, elle est complètement timbrée et elle n'a rien à dire d'intelligent sur le mal-être dont souffre cette pauvre jeune fille. Et voilà. Donc ça, je trouve ça pas mal. C'est-à-dire que vraiment, ça pose la question du sentiment de l'absurde de l'existence, y compris chez quelqu'un qui aurait toutes les raisons de profiter de la vie puisqu'elle est jeune, jolie et riche.
Voilà, moi, j'ai adoré, en fait, ce livre et cet auteur dont je ne savais rien. Bon, le titre, déjà, est quand même assez savoureux. C'est quoi le titre original de Mon année de repos et de détente? J'ai pas regardé.
C'est le même.
C'est le même?
C'est le même, c'est une traduction littérale.
Bah, c'est bien fait, pour une fois. Parce qu'on va chercher parfois des titres un peu compliqués. Celui-là est quand même extrêmement bien trouvé. Bon, c'est une phrase prononcée par l'héroïne, d'ailleurs, au cours du roman. Moi, je trouve effectivement la vie sous médicaments extrêmement réussie, notamment quand son magnétoscope est rendu même. Elle commande beaucoup de choses au téléshopping, des choses complètement absurdes. Donc ça me réjouit. Les lubies de la psy qui répond toujours à côté parce qu'elle a des obsessions, c'est réjouissant aussi. Alors, Reva, dont on n'a pas parlé, la meilleure amie, quand même une figure essentielle parce qu'elle parcourt elle aussi tout le livre, on y reviendra peut-être. Mais alors, pour chercher la petite bête, mais qui est assez grosse en fait, c'est quand même, comme souvent, en littérature ou dans le cinéma, je sais pas, il y a une malédiction, dès qu'il s'agit de parler du monde de l'art, on est quand même dans les gros clichés. Dans une façon de regarder ce monde-là, comme si tous les gens étaient des abrutis et faisaient n'importe quoi. Donc on a le Ping Chi, qui est le plasticien qu'elle va rencontrer dans la galerie où elle travaille au début du livre et qui réinterviendra dans la toute fin, la dernière partie du roman. Et là, je trouve que c'est quand même d'une assez grande faiblesse que j'attendais pas de la part de cet auteur qui, pour le reste, a quand même beaucoup de finesse, y compris dans le texte, elle parle de la bodega, qui est quand même un lieu important au départ de sa sociabilité, puisque c'est le seul, parce qu'elle y va parce qu'on lui demande rien, en fait, et qu'elle peut y être tranquille. Bon, beaucoup, beaucoup de très bons sur le monde de l'art. Vous avez l'air d'opiner.
Oui,
Raphaël Leris.
J'opine tout à fait, je trouve ça très caricatural. Après, elle a un grand plaisir à caricaturer tout le monde et n'importe quoi.
Oui.
Ça ne me choque pas parce qu'on est dans un jeu avec les clichés aussi, le côté Sex and the City des années 2000, etc. Donc, et puis après, moi, je trouve que la manière dont Pinchy réintervient à la fin et dont elle s'en sert, je trouve ça pas du tout inintéressant non plus.
Non, c'est des commentaires qui sont faits après l'expérience dont on ne
voilà,
dira rien.
On ne vous dira rien.
Qui sont rapportés. Bon.
Voilà, mais donc, il me semble que étant donné le rapport qu'elle entretient avec la caricature et le fait que ce personnage soit de stricte mauvaise foi, exaspéré partout.
Oui, vous avez raison après tout.
C'est voilà,
pas comme
y compris.
Quand Houellebecq parle de d'art contemporain en disant des bêtises.
Voilà, donc y compris sa meilleure amie, le personnage de Reva, qui est extraordinaire, et donc moi j'ai fini par me demander si elle existait vraiment, si c'était pas une projection d'elle-même.
Côté Fight Club.
Un côté Fight Club. Oh là là, vous révélez quelque chose d'incroyable là.
De Fight Club. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vu. Et sinon, I See Dead People, mais je vous glisse ça comme ça. Tant qu'à divulguer, faisons-le beaucoup. Donc Reva existe-t-elle?
Reva est.
Ou l'a-t-elle rêvé?
Oh.
Ouf.
Ah, la France, l'existentialisme, Saint-Germain des Prés.
J'ai rêvé Reva. Bon, plein de pistes ouvertes, Jean-Christophe.
Oui, non, moi je voulais revenir sur deux choses. Enfin, déjà peut-être cette, vous disiez que ces clichés sont peut-être utilisés à dessein, mais moi ce qui me dérange un peu, la question que je me suis posée, c'est si la pensée de ce livre, ou en tout cas ce qui s'en dégage, n'était pas un petit peu daté en soi. Vous parliez de Sex and the City des années 2000, tout ça. Encore une fois, le nom de Bret Easton Ellis qui revient souvent quand on parle de Tessa Mosveg. Tout ça, ça me fait me demander si ce rapport que son personnage entretient au monde ne serait pas un petit peu daté. Je pense que cette sorte de nihilisme qui est le sien flaire un petit peu les années 90.
Mais elle est très forte du coup si elle arrive à écrire une fiction de 2000 qui ressemble à 2000, étant donné
que
je le découvre en 81.
Je me demande dans quelle mesure, et ça ce serait lui prêter des propos que je ne peux pas faire, mais je me demande dans quelle mesure cette pensée ne serait pas, elle est dite aujourd'hui, dite et éditée aujourd'hui, est-ce qu'elle n'essaye pas de nous dire quelque chose aujourd'hui, je pense d'une certaine manière quand même, et je ne suis pas sûr que ce soit forcément exactement la réalité du monde dans lequel on vit.
Raphaël Héris ?
Je sais que son point de départ, c'était d'écrire un roman sur le 11 septembre, et donc qui n'est plus du tout le centre du texte, mais qui est un peu son horizon. Et donc c'est aussi la génération qui avait 20 ans en 2000, qui était nourrie de ça, de ce nihilisme, qui aujourd'hui à 40 ans, c'est pas non plus des gens... complètement disparu de la circulation. Vous êtes jeune, Jean-Christophe.
Non, c'est pas qu'ils aient disparu ou non. C'est
c'est leur monde qui s'est effondré aussi.
Oui.
Leur rapport au monde aussi a disparu. Ça ne signifie pas que ça n'a pas eu lieu ou que ça doive complètement disparaître de la littérature.
Grégoire Leménager va vous départager. Ou pas.
Sur la question du nihilisme, je ne sais pas. Je pense qu'il y a plein de raisons d'être nihiliste. Donc là, évidemment, elle pousse ça jusqu'à la caricature, jusqu'à l'outrance, pour en faire aussi le sujet d'une expérience. Il y a quelque chose d'expérimental dans le livre qui est assez fascinant quand même. La manière dont méthodiquement elle décrit les effets des médicaments, le type de rêve que ça lui procure, etc. Et la volonté de... Elle veut pas se suicider, cette fille. Elle le dit à plusieurs reprises. Elle espère... en gros, elle espère faire ce qu'on fait quand on est fatigué, quand on est déprimé. C'est-à-dire, on se dit, je vais faire une bonne nuit, puis ça ira mieux demain. Et c'est ça. Et son idée, je vais faire une bonne année de sommeil, et après, je vais être régénéré, je vais redémarrer, ça va aller. Et elle n'a plus goût à rien, elle a l'impression de désir pour rien. Et c'est ça que j'aime bien dans le deuxième tiers, quand elle se rend compte que pendant sa nuit, elle fait des choses. C'est qu'en fait, en réalité, elle a des désirs, elle a quelque chose qui grouille en elle et qu'elle n'arrive pas à identifier et qui se réveille pendant qu'elle dort. Et ça, je trouve ça. Elle en fait. Peut-être qu'elle aurait pu plus l'exploiter, ça. Je trouve un peu dommage qu'elle n'en ait pas fait autre chose, mais pendant son sommeil, elle fait des choses qui. Oui, il y a ses désirs sexuels qui se réveillent. Elle a aussi des espèces d'élan de générosité ou de bonté qui elle-même la dégoûte quand elle se rend compte qu'elle les a eues. Enfin, c'est ça que moi j'ai trouvé que c'était là que le livre prenait de l'épaisseur, de la profondeur, parce que sinon il y a quelque chose effectivement de très nihiliste, de très plat, qui est très drôle, mais qui au bout de 100 pages est un peu lassant.
Christophe Briachon.
On parle beaucoup des personnages. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé aussi, ce sont les lieux, puisque en étant quasiment un roman de huis clos, New York existe vraiment dans ce livre, et la rue de New York, les New-Yorkais, la vie new-yorkaise existe, alors que cette jeune femme est enfermée dans son appartement. Elle descend de temps à autre dans un bar en bas de chez elle pour aller s'acheter de quoi manger. Bon, il y a quelques instants où elle sillonne les rues de New York, et au fil de ce livre, réellement la ville existe. Ce qui est assez incroyable quand même, de réussir à faire vivre une ville dans laquelle le personnage ne vit pas finalement.
Raphaël Léris, pour conclure.
Ça s'inscrit aussi, ce livre, dans une tradition littéraire américaine qui est cette question, comment faire une nation de cinglés, eh bien, en inscrivant la poursuite du bonheur dans la Constitution. Ça existe quand même vraiment très très largement dans la littérature américaine. Je trouve très intéressante la manière dont Otessa Moshfegh s'en saisit à travers la question de la pharmacopée, ce qui me donne juste l'occasion d'évoquer un roman que j'ai adoré et auquel m'a fait penser Otessa Moshfegh il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Le remède et le poison de Dirk Wittenborn, qui était traduit au Seuil par José Camoun et qui était l'histoire de l'invention des antidépresseurs et comment ça avait fait une catastrophe dans l'histoire d'une famille. Et donc ça, comment la recherche du bonheur par la pharmacopée faisait une nation de cinglés, je trouve que c'est une question très intéressante.
Oui, on est tous conscients. L'autre livre d'Otessa Moshfegh s'intitule « Mon année de repos et de détente ». J'ai cité le nom de Trevor, on n'a pas parlé de lui. L'éternel crush, et plus que ça, de cette malheureuse héroïne. Le livre est traduit par Clément Baude, il est publié chez Fayard. C'est l'heure du coup de cœur ce soir donné par Jean-Christophe Brianchon au livre de Marc Potrel, L'éternel printemps chez Gallimard. Pourquoi faudrait-il donc que nous lisions ce livre?
Parce qu'il est indispensable, comme à peu près tous les livres de Marc Potrel, selon moi, parce que j'avais beaucoup aimé ses précédents, La vie princière et Une jeunesse Blaise Pascal, qui était en 2018 et en 2016. C'est un livre, comme les précédents, très court, très vif, très précis. Ça fait à peine une petite centaine de pages pour nous raconter à peu près rien. Mais c'est
exactement, c'est bien vendu, là.
C'est exactement ce que j'aime. Ça nous rend compte, enfin, rien dans le sens où rien de très original, puisqu'il s'agit de rien d'autre que d'une rencontre entre un homme et une femme. Une rencontre qui sera magnifiée réellement par la littérature, par le mot, par la précision du mot. Tout sera chirurgicalement ausculté, mais avec une tendresse infinie. C'est pas de l'auscultation médicale, c'est réellement l'auscultation des gestes, des regards, de l'amour qui petit à petit va s'emparer de ces personnages. C'est d'une précision et d'une délicatesse infini et accessoirement ça permet une fois de plus à Marc Potrel de nous montrer d'une part sa maîtrise du mot et de la littérature, mais aussi cette croyance infiniment belle qui est la sienne en la littérature, puisque il utilise le mot réellement pour faire survivre toujours les instants, survivre ses amours, survivre ce rien duquel la vie de ses personnages se fait, et en quelques pages, en quelques riens, il arrive à créer tout un monde, tout un univers, tout un amour, l'amour de son narrateur pour cette femme qu'il rencontre, qui se situe dans le monde des livres puisqu'elle est libraire, lui est auteur. A priori, sans trop vouloir faire de psychologie, on peut penser que Marc Potrel parle un petit peu de lui, et c'est terriblement beau de l'entendre parler de lui. Moi, j'ai encore envie de l'entendre parler. Il faut lire ce livre absolument.
On a l'impression que vous avez un peu envie de vivre dans ce monde-là.
J'ai envie de
que vous y vivez,
j'ai envie
en fait.
De vivre dans ces mots, parce que ces mots sont doux et beaux. Après, cette histoire d'amour est finalement assez vivable. Somme toute assez commune, mais très belle racontée ainsi.
L'éternel printemps de Marc Potrel chez Gallimard.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Le dernier roman à notre sommaire, c'est celui de Marie Dariussecq, La mer à l'envers, chez POL. On va y rencontrer Rose en croisière sur la Méditerranée dans un énorme paquebot. Avec ses enfants, le paquebot va recueillir à son bord des migrants à la dérive, et parmi eux, parmi ces migrants, il y aura Younes. Avant même d'entendre un extrait de ce livre, un premier sentiment sur celui-ci, Jean-Christophe Brianchon, qui enchaîne du coup.
Alors j'enchaîne, et j'enchaînerai avec un mot, sur le quatrième de couverture, on nous dit « Rose est théorique, mais seulement par moment ». Moi je dirais que ce livre est beau, mais seulement par moment aussi.
Raphaël Léris.
Moi, je dirais que c'est l'un de mes livres préférés de la rentrée. C'est un grand roman, moins sur l'accueil des migrants que sur ce que cela signifie de vivre aujourd'hui dans des sociétés occidentales comme la nôtre. Et ce grand roman se cache dans ce qui se présente comme un livre sur la crise de la quarantaine.
Bon. Grégoire Leménager.
Moi, je trouvais qu'il y a un petit côté Madame Bovary face à la fin du monde, quoi.
Bon, c'est comme ça que vous le dites. On va écouter un extrait qui se situe dans les premières pages de ce livre de Marie Darrieussecq, un extrait lu par Natacha Triou.
Les enfants dormaient. Il était 6h12. Elle rangea leur gilet de sauvetage. Elle s'assit. Il faisait chaud. Une douche. Voilà, une douche. Il lui manque un sursaut. Il lui manque de ressentir quelque chose de fiable. Il lui semble qu'elle est coupable, elle, Rose Goynetch, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Son nom vient sûrement très bas sur la liste des coupables, non ? Elle touche l'intérieur de ses paumes. Elle essaye de trouver cette chose qu'elle a dans les mains, sa force. Mais seule, ça ne vient jamais. L'eau chaude coule à flots. Le savon fait des bulles entre ses doigts. L'eau chaude du monde luxueux, la vapeur de l'eau froide faramineusement transformée en eau chaude et coulant par la bonde jusque dans la mer. Elle observe le creux de son sternum. Ça bat. Elle est vivante. Elle voit le tas de morts dans la barque et elle voit le garçon qui a soif. Et elle sent la décharge de leur contact et elle voit son mari. Ça n'a aucun rapport. Le divorce et le sauvetage. Son couple ou quoi, la migration. Il y a autant de différence entre les vivants et les morts qu'entre l'intérieur chaud du bateau et le raffio glacé là-bas. Elle se savonne et les images moussent. Elle voit des hommes jeunes, aux vêtements détrempés, frappés aux portes de son enfance. Les portes vernies du village et demander du travail. N'importe quoi, pour 1 euro de l'heure, ils tailleront la haie, cueilleront les fruits, laveront les sols, torcheront les vieillards, soulageront les maux et répareront ce qui est cassé. Il n'y avait pas d'euros à l'époque.
La mer à l'envers de Marie Darrieussecq, dans un souci d'alternance, et non pas parce que c'est le plus positif, c'est Jean-Christophe Briançon qui ouvre cette dispute.
Le plus positif, non, je ne le suis pas particulièrement.
C'est pas vous. Hein, oui. Non, c'est pas vous le plus positif, mais ça, c'était à vous de commencer.
On a parlé de romans de crise de la quarantaine, et effectivement, je l'avais pas vu comme ça. C'est peut-être la bonne manière de le voir. En tout cas, c'est à cet endroit-là qu'il m'a intéressé. Avant de devenir un roman sur les migrants, si jamais c'était un thème, c'est à cet endroit-là qu'il est intéressant. Donc, dans les deux premiers tiers, puisque ça bascule vraiment dans un roman, on va dire sociétal, social, à partir du dernier tiers. Et avant cela, donc on suit la vie de cette narratrice, d'abord en croisière sur un bateau avec ses enfants, endroit sur lequel elle va croiser la route de ce migrant que les habitants du bateau vont accueillir au fil de la croisière. À ce moment-là, l'histoire de cet homme, de ce migrant, n'est pas encore très présente et tout s'entre mêle entre la vie de ses enfants, la présence de ses enfants, son mari alcoolique qui est un peu lointain puisqu'il est resté chez eux, sa vie à elle, sa vie sentimentale, intellectuelle, sa vie professionnelle. Bon, tout s'entrelace, c'est assez la construction est assez maligne et le propos est assez beau. En revanche, j'émets de gros doutes sur le propos social, sociétal, politique du livre à partir de l'instant où cette narratrice nous emmène directement dans sa relation avec cet homme, Younes, et dans sa tentative à elle de le sauver, de l'amener ailleurs autrement. À ce moment-là, je pense que le roman devient moins intéressant, puisqu'il s'éloigne peut-être du propos existentialiste et du propos psychologique ou en tout cas intellectuel qui est celui de la narratrice.
Grégoire Leménager.
Oui, mais sur la tripartition du livre, je suis pas loin d'être d'accord. C'est-à-dire que il y a un petit côté thèse, antithèse, synthèse. La thèse, c'est le moment de la rencontre avec ce jeune migrant là, une nuit sur le bateau de croisière. L'antithèse, c'est toute la partie où elle essaye de l'oublier, quoi, disons. Et la synthèse, c'est le moment où elle renoue avec lui. Et moi, je trouve la première partie vraiment très forte et très très réussie et très belle. Et je trouve que je parlais de Madame Bovary, non pas parce qu'elle va développer, non pas parce que cette héroïne va développer des fantasmes un peu délirants et faire absolument n'importe quoi, mais parce qu'il y a une façon chez Darrieussecq de coller à ce qu'il y a dans la tête de son personnage avec un usage du style indirect libre qui est vraiment virtuose parce qu'en même temps c'est hyper lisible tout le temps, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la tête de cette femme. Il y a des petits effets de mise à distance, mais qui sont pas moqueurs, à la différence de ce qui se passe chez Flaubert. Mais il y a quelque chose comme ça. Et la scène sur les scènes sur le bateau, dans la panique, dans la nuit, quand elle va chercher l'iPhone de son fils pour le filer à ce migrant dont elle ne sait que le prénom et tout ça, je trouve qu'il y a quelque chose dans la panique qui est vraiment très réussi, et dans le sentiment dans l'ébranlement que ça crée chez cette femme. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose qui se déchire, et les conditions d'une prise de conscience que la fin du monde, la fin de son monde, la fin du monde dans lequel elle a grandi, la fin du monde qu'elle a attendu, qu'elle espérait pour le 21e siècle quand elle était petite, et tout ça, la prise de conscience que tout ça est bien engagé, avec son mari alcoolo, la catastrophe écologique qui se rapproche, le fait que Paris est devenu une ville invivable, etc., que ces gars, elle les aime beaucoup, mais bon, ils sont quand même le nez sur leur téléphone portable du matin au soir et tout ça. Et elle prend conscience de l'absurdité de tout ça. Et dans ces moments de prise de conscience, c'est quelque chose qui est assez beau. Après, c'est un peu plus. Je sais pas. Je trouve qu'elle joue moins bien Enfin, une fois que la prise de conscience a eu lieu, on a compris quoi. Qui est cette femme, on a compris quelle est sa mentalité, on a compris ce qui va la travailler, ce qui va la tarauder, et finalement on retombe dans quelque chose qui est plus commun, quoi, qui est plus connu, qui est un peu plus attendu, je trouve.
Raphaël Léris, enthousiaste ce soir pour tous les livres, hein, finalement. Oui. Mais c'est bien, il en faut. Hein.
Alors, vous dites thèse, puis antithèse, puis synthèse. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est que je trouve que la thèse, l'antithèse et la synthèse se retrouvent par paragraphe, qu'on épouse les hésitations de Rose, ses envies. Alors, et ça a à voir avec quitter son mari ou pas, rester à Paris, Clèves, et ça a à voir avec sa relation avec Younès. Donc, ce qui me plaît énormément, c'est que la phrase de Dario Sec, il y a quelque chose de prodigieux à mon sens, puisque dans sa simplicité, elle réussit à englober tout ça, les hésitations, les élans de courage et puis la pusillanimité. Et que je peux entendre qu'il y a quelque chose d'une construction peut-être un peu systématique, mais que...
Je ne dis pas que ce soit péjoratif, hein, c'était pour décrire les choses de manière un peu claire.
Mais ce qui m'intéresse dans ce texte-là, voilà, c'est la manière dont, en permanence, on a l'envie d'aider, et puis la fatigue, la peur pour son confort, etc. Et qu'on a quelques scènes où elle est héroïque par moment, comme le rappelait Jean-Christophe, mais il y a, sur la route pour aller à Calais, par exemple, elle est obligée de se dire « aller d'une ère », ce qui était d'ailleurs une phrase que se disait beaucoup l'héroïne précédente de Marie Dario Sec dans « Notre vie dans les forêts », puisque ce sont deux textes qui fonctionnent ensemble. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment un très grand texte sur nos oscillations, qui sont celles de l'honnête bobo qui, face à la crise migratoire, se dit « qu'est-ce que je peux faire dans sa vie quotidienne la plus quotidienne. »
Ah, mais pour autant, alors pour introduire un peu de dispute, est-ce qu'elle était obligée, Marie Dario Sec, vous parlez de cette phrase où vous lui trouvez mille qualités, moi j'avoue que j'ai quand même passé beaucoup de temps à rire, mais c'était pas l'effet sans doute recherché par Marie Dario Sec, parce que j'ai l'impression que c'est, il y a par moments de la roulée, enfin dans l'extrait qu'on a entendu, elle se savonne et les images moussent, si vous voulez, c'est pas possible, et il y en a, enfin je veux pas faire de citation à charge, parce que normalement j'interdis aux autres de le faire, mais là, on l'a entendu dans l'extrait, donc je peux la reciter. Il y en a énormément comme ça. Il y a des facilités qui vraiment sonnent comme du Bec Bédé. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont des phrases d'accroche, un peu malines comme ça, en étant dans une connivence supposée ou voulue avec le lecteur. Moi, j'avoue que j'étais quand même un peu inquiet. Je me suis demandé si c'était le sujet qui l'avait conduit à écrire comme ça, si elle avait justement pas un peu de surplomb, voire de mépris pour son héroïne, en fin de compte, puisqu'elle l'a fait penser d'une façon aussi chaotique, moi je dirais thèse, antithèse, prothèse, pour faire un mot à la Dario Sec, parce qu'il y a tellement de béquilles dans ce texte que moi j'étais extrêmement navré. Alors du coup, j'ai quand même été lire quelques entretiens dans votre journal, Le Monde, et je vois qu'elle est allée à Calais, qu'il y a des expériences en Afrique, enfin, je parlais de documentation tout à l'heure, le se confronter au réel, on a l'impression que vraiment c'est pour le coup un prodige que d'aller passer du temps à Calais. Beaucoup d'autres l'ont fait et ont ramené d'autres choses ou ont gardé ça pour eux. Moi, j'avoue que j'étais assez embarrassé à lecture de ce livre. Vous voyez un peu les réserves que j'ai, Raphaël Léris, ou alors, vous les comprenez un tout petit peu?
Je les entends, mais je pense pas qu'elle n'ait de rapport direct. Je trouve par exemple que ce qu'elle fait de Calais, elle n'en fait pas des tonnes sur Calais. Tonnes, non, mais elle ne surjoue pas du tout le texte documenté.
Non, mais pourquoi? Bon, elle en parle beaucoup dans elle s'en sert pour une héroïne qui est quand même pas la plus belle des héroïnes. Ça pourrait être intéressant, mais je trouve qu'il y a une façon de la décrire ou de décrire ces oscillations qui sont un peu étranges pour moi. C'est mon sentiment de lecture, hein, Jean-Christophe Brianchon.
Moi, pour ce qui est du ridicule que vous imputez à ces mots, je pense qu'il tient en partie à un rapport assez étrange, assez curieux qu'elle entretient à la poésie dans son texte. Parce que le texte est construit avec des petits paragraphes successifs. Mmh. Ce qui fait que l'auteur assume une forme de poésie sur le plan rythmique, on va dire, qui lui permet de construire ses paragraphes en allant du plus concret vers l'envolée la plus lyrique. Et généralement, chacun de ces paragraphes se termine sur une envolée qui peut paraître un petit peu ridicule. Et à force de répétition, je trouve que ça entretient un rapport à la poésie très particulier, parce que non seulement ça fait de la poésie une sorte de petites astuces pour pouvoir construire et faire vivre le paragraphe, mais en plus ça fait que l'auteur, à force de répétition, à force de paragraphes successifs, n'assume pas cette poésie finalement, ou n'assume pas la puissance possible de la poésie, puisque de toute façon à chaque fois elle revient construite de la même manière, avec ces mêmes envolées qui tombent finalement un petit peu à plat. Donc je pense que ça tient à ça, je pense, à ce rapport assez particulier qu'elle entretient, si ce n'est à la poésie, en tout cas au lyrisme, qui chaque fois recommence dans chacun des paragraphes, et nécessairement, à force de recommencement, on finit par tomber dans certains écueils. Ce qui est
bon, je précise ici qu'il y a beaucoup d'autres livres de Marie d'Orisec auxquels j'ai totalement adhéré d'un bout à l'autre. Et là, j'ai vraiment une question, peut-être que le sujet n'est pas réglé. Et c'est pas ce livre qui le règle dans son écriture, me semble-t-il. Grégoire Le Ménager.
Ouais, j'ai pas eu ce genre de problème avec son style. Oui, il y a des métaphores, des comparaisons qui sont un peu bizarroïdes, qui sont pas forcément très très heureuses, mais son style, me semble-t-il, se caractérise d'abord par une rapidité extraordinaire, un sens du rythme qui fait qu'elle peut tout se permettre, et que c'est un degré de lisibilité qui est assez rare. Après, moi, ce que je trouve bien, et qui en même temps fait un peu la limite du livre, c'est que effectivement on colle au point de vue d'une bobo de 45 ans qui va passer ses vacances sur la mer au large de la Grèce, qui rêve de fuir Paris parce que Paris c'est sale, et qui a des problèmes de bonne conscience face aux migrants et tout ça. Donc à la fois c'est très bien de serrer et de maintenir le point de vue sur ce personnage-là, et quelquefois on aimerait bien avoir un peu plus de polyphonie peut-être dans le livre, et voilà. Donc c'est un peu ça mon point de vue. À la fois ça donne de la force au livre, et d'une certaine manière ça le limite un peu, quoi.
Jean-Christophe Brianchon veut dire
encore un mot. Intéressant, au contraire, ces atermoiements et ces oscillations de ce personnage qui est finalement un personnage type, qui est d'ailleurs beaucoup usé, beaucoup utilisé en politique. Voilà, le bobo, c'est quand même un truc qu'on monte du doigt, et c'est pas bien, c'est sale. Bon, et finalement, c'est assez intéressant de voir les oscillations qu'il peut y avoir, les oscillations de pensée qu'il peut y avoir dans la tête de cette femme. Là où ça devient problématique, c'est quand on rentre dans le concret de bon, faut l'amener chez le docteur, lui refaire les chicots, les trucs. Bon, ok. Mais ça, c'est pas très intéressant. Alors que le questionnement qu'il y a dans la tête de cette femme, et la crise qui en résulte ou qui en est à l'origine, je ne sais pas, eux sont très intéressants.
Avec une extrême concision, Raphaël Léris.
Marie d'Ariosec s'attaque au cliché qui est « les bobos, vous avez qu'à les prendre chez vous, les migrants ». Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire « les prendre chez vous, les migrants » Eh ben, ça veut dire s'occuper des questions dedans, faire des radios, etc. Et donc ça, moi, je trouve ça absolument passionnant.
Faites-vous votre avis par vous-même, c'est toujours ce qu'il faut. La mer à l'envers, c'est le titre de ce roman de Marie d'Ariosec, publié chez POL. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, David Dana nous a rejoint pour nous rappeler la question du jeu d'hier et nous donner sa réponse, David.
Quel nouveau lieu d'exposition de 29 000 m² investit la Biennale d'art contemporain de Lyon? La réponse est l'usine Fagor.
Ce soir, des invitations gagnées pour l'exposition 20 ans, les acquisitions du musée du Quai Branly Jacques Chirac, à découvrir à partir du 24 septembre et jusqu'au 26 janvier. La question:
Quel architecte a réalisé le musée du Quai Branly?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission était préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Comeau, Boris Pinault et David Dana. Prise de son ce soir, Anthony Thomasson. Réalisation, Alexandre Fougeron. Demain, 19h, dispute cinéma. Je serai avec Florence Colombani, Muriel Joudet et Philippe Azori. Nous parlerons de Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, d'Astra de James Gray et des Fleurs amères d'Olivier Meiss.